Vous êtes avec nous sur Bac FM 106.1, votre radio 100% pop rock et metal. Vous le savez, c'est l'heure des coulisses de la formation, l'émission où l'on parle des études supérieures, orientation et vie pro, sans pression, mais avec des gens qui connaissent vraiment le terrain. Aujourd'hui, on va parler d'une compétence qu'on présente souvent comme un avantage, ou devrais-je dire advantage, alors qu'en réalité, elle est devenue aujourd'hui dans beaucoup de filières presque indispensable, l'anglais. English. En informatique, il permet de lire des documents techniques, de suivre les évolutions du secteur, d'échanger avec des communautés du monde entier. En marketing, en communication ou dans le digital, il sert à comprendre les tendances et faire de la veille notamment, et parfois même envisager une carrière à l'international. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités du campus by CCI Nièvre. Bonjour Émilie Nicole.
Bonjour.
Vous êtes formatrice en anglais depuis plus de 30 ans. Bonjour Gary Redkins.
Bonjour.
Vous êtes formateur en anglais originaire du Royaume-Uni. Bonjour Daniel Blanc-Lué.
Bonjour.
Vous êtes étudiant en première année de master expert en architecture et développement logiciel. Et vous êtes en alternance chez Paragon à Cône. Enfin, bonjour à Jenning Bernard.
Bonjour.
Vous êtes étudiant, vous, en deuxième année de master manager marketing digital, communication et événementiel. Et vous êtes en alternance aussi chez Carmila. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Je commence avec vous, Émilie Nicole. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut encore réussir dans l'enseignement supérieur sans un minimum d'anglais? Est-ce que l'anglais est un obligatoire aujourd'hui, en 2026?
Alors l'anglais n'est pas obligatoire, mais l'anglais est une porte d'accès à plein de choses. Et je dirais, à l'heure actuelle, si on veut être citoyen du monde... il faut maîtriser l'anglais. Hein, donc c'est une porte d'accès aux études, à une meilleure carrière professionnelle, à des échanges au niveau mondial. Hein, il faut savoir que quand on souhaite accéder au savoir mondial, il faut maîtriser la langue anglaise. Donc l'anglais a toute sa pertinence. Alors ça c'est d'un point de vue études supérieures et professionnelles, mais bien sûr maîtriser l'anglais c'est une énorme expérience et richesse à titre personnel.
Hein, oui, parce que il y a beaucoup de choses qui sont en anglais aujourd'hui. On parle des anglicismes hein, en français. Et je crois que la langue française adopte beaucoup d'anglicisme.
Oui, il y a des va-et-vient entre les deux langues. Hein, donc de l'autre côté de la Manche, dans les réunions anglo-saxonnes, on glisse des mots français, hein, je ne sais quoi, et il faut travailler sur notre savoir-faire. Et nous, on glisse des mots anglais dans nos réunions. Hein, on va faire un débrief, hein, il faudra organiser un call et que tout le monde soit présent pour le meeting. Donc il y a toujours eu, et ça c'est historiquement parlant, ça a toujours existé, les échanges linguistiques entre les deux langues.
Gary, dans votre expérience professionnelle, est-ce que les étudiants ont encore tendance à voir l'anglais comme une matière scolaire parmi tant d'autres, plutôt que comme un vrai outil professionnel et personnel?
Ça change beaucoup. Je suis, comme j'ai dit toujours à mes étudiants, je suis beaucoup plus génération papy maintenant. Alors quand j'étais dans mon parcours professionnel, il y a des choses comme les fax, comme les téléphones à l'ancienne. Mais maintenant, il y a plusieurs matériaux. C'est un niveau d'anglais basique où on peut commander une bière, où on peut faire les choses au niveau social. Mais pour le monde professionnel maintenant, il y a le langage de Microsoft, par exemple, les outils comme l'IA qui changent beaucoup de choses. Et aussi avec le monde anglo-saxon, anglophone, il y a pas mal de différences entre anglais australien, anglais canadien, anglais américain. Et c'est les outils comme ça qui sont très utiles si on se lance dans un niveau international. Et ça, c'est vraiment pour les étudiants une démarche un peu plus différente quand j'étais plus jeune moi-même.
C'est vrai qu'on dit l'anglais, en fait on devrait peut-être dire les anglais, puisqu'il y a effectivement l'anglais de Grande-Bretagne, l'anglais américain, c'est lequel qui est enseigné? Est-ce qu'il y a des différences dans la façon d'enseigner en fait?
C'est vraiment l'objectif, car pour moi il y a un niveau d'anglais qui est universel. J'ai dit l'anglais du roi, qui est un bombasse international. Mais aussi, il y a des choses très spécialistes pour les sujets. Par exemple, j'enseigne le QHSE avec quelque chose au niveau de mon parcours professionnel. Comment pas seulement comprendre l'anglais, mais le mettre en pratique dans le travail spécialiste. Mais ça, c'est un peu différent si j'ai une classe qui voudrait, par exemple, faire un projet en Brisbane. je vais faire quelque chose en australienne, car il y a le vocabulaire, les expressions, les grammaires qui sont un peu différents. Alors, il faut s'adapter, mais vraiment, c'est un peu polyglotte en elle-même, la langue anglaise.
Daniel, est-ce que dans l'informatique, l'anglais vous sert concrètement au quotidien ?
Eh ben, oui, carrément, puisque en fait, on utilise beaucoup d'outils qui sont produits par des sociétés américaines où en fait il y a des docs qui sont pas traduites forcément et qui sont exclusivement en fait en anglais. Et puis il y a même les forums. Bon, alors maintenant c'est vrai qu'il y a un peu l'IA, etc. Donc les forums, ça a peut-être passé un peu de mode, mais tout ce qui est c'est un peu technique, mais Stack Overflow, c'est des sites en fait qui sont spécialisés pour donner des réponses, etc., pour apporter des réponses aux développeurs. C'est quasiment que des échanges en anglais, en fait. Il n'y a pas de... Le français est vraiment une part très, très minoritaire sur ce genre de site-là. Donc, l'anglais, pour l'informatique, c'est pas obligatoire, mais c'est très, 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 très fortement conseillé.
Parce que j'imagine qu'il y a des termes techniques qu'on doit savoir. Aujourd'hui, dans beaucoup de navigateurs, on peut traduire la page. Google, Opera, etc. le propose. Mais ça reste de la traduction peut-être mot à mot. Est-ce que toi, tu t'en sers?
Oui, c'est ça. Non, puis en fait, je suis en train de... votre question me fait penser qu'en fait, même dans le... Dans le code lui-même, en fait, il y a des méthodes en fait qui sont utilisées directement dans le code et qui en fait portent directement des, enfin c'est directement des verbes en anglais en fait. Donc on comprend tout de suite ce que va faire une méthode dans un code juste grâce à la connaissance de l'anglais, quoi.
Jennings, dans le marketing digital et la communication, qu'est-ce qu'on perd quand on ne maîtrise pas assez l'anglais?
Alors, ce qu'on perd, j'ai envie de dire quasiment tout en fait. La base du vocabulaire, c'est l'anglais. C'est-à-dire que tous les éléments de marketing aujourd'hui, c'est de l'anglicisme, en fait, même en français. Donc,
Toi, tu t'en sers au quotidien
Alors, moi, je m'en sers au quotidien parce que c'est spécial. Donc, je parle un peu anglais, je discute. Mais dans l'aspect professionnel, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on aura besoin d'anglais. Alors, j'ai quelques anecdotes, si vous voulez. Hein. J'ai une petite anecdote à dire que moi, je suis en alternant chez Carmila, donc les centres commerciaux Carrefour. Et je suis amené des fois à faire des visites de cellules. Et il se trouve qu'un jour, un homme très grand est arrivé. Et il se trouve qu'en fait, il était... c'est l'homme qui était en charge de Jack & Jones. Jack & Jones qu'on va ouvrir au mois d'avril dans la galerie. Donc j'ai dû lui faire la visite en entier en anglais.
Oui, donc ça sert quand même...
Ça sert beaucoup, oui.
Émilie Nicole, comment on enseigne un anglais utile, un anglais qui sert vraiment dans le monde du travail et pas seulement pour réussir un examen, le fameux examen de fin d'année?
Alors l'enseignement de l'anglais, c'est surtout enseigner des compétences, comment communiquer au téléphone en anglais, comment mener une réunion en anglais, comment négocier en anglais, et tout ça était très travaillé d'un point de vue oral, hein, ce qui fait parfois défaut dans les formations à l'école. Hein, donc nous, au niveau formation professionnelle, on rattrape un petit peu le retard et le manque d'aisance à l'oral. Donc nos activités sont très très centrées sur comment communiquer à l'oral. Hein, parce qu'en général, les gens savent lire l'anglais. Hein, c'est une langue qui se lit très facilement, hein, puisqu'à 75%, le vocabulaire anglais ressemble et est originaire du latin, de la langue française. Donc, c'est une langue qui se lit très, très facilement. Mais la grosse difficulté, c'est de la parler. Et donc, ça demande entraînement. Donc, les cours d'anglais en enseignement supérieur, dans un contexte professionnel, c'est beaucoup l'anglais à l'oral. Hein, gagner en aisance pour tout ce qui est situation communicationnelle, de la vie de tous les jours et la vie professionnelle.
Bac FM est une radio lycéenne, il y a plein de terminales qui nous écoutent et qui suivent des cours d'anglais de façon assidue. On dit que pour apprendre vraiment une langue, il faut se déplacer dans le pays concerné par celle-ci. Est-ce qu'on peut apprendre une langue de façon correcte et être quasiment bilingue sans voyager?
À l'heure actuelle, oui, c'est faisable. Hein, donc moi, je suis la génération où, pour apprendre une langue, il fallait effectivement se déplacer et voyager. Maintenant, la langue vient à nous, hein, par l'intermédiaire des séries en langue anglaise, des échanges, des vidéos, des échanges en ligne. Donc, il est effectivement possible d'apprendre l'anglais sans se déplacer à l'étranger.
Gary, est-ce qu'on n'apprend pas mieux une langue quand on le relie directement à un métier, à des situations concrètes ou à des besoins réels?
Oui, et ça dépend aussi le cours suivi par les étudiants, mais on peut vraiment développer les circonstances, les role-plays pour entrer dans cette paradigme avec les étudiants, et ça marche bien. Et comme Emily a dit, c'est bien maintenant avec les outils qui sont disponibles, même d'entrer dans un visio avec quelqu'un dans une langue étrangère pour discuter plus, mais vraiment on peut entrer dans les pistes professionnelles pour faire les choses ensemble, oui.
Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui nous écoutent pour s'améliorer en anglais?
Il y a les petites choses. Si vous allez au cinéma, cherchez la version originale, spécialement britannique, et évitez les sous-titres qui ne sont pas exacts. Même sur la télévision, ça c'est possible. Écoutez la radio. Il y a la radio sur l'Internet qui sont un peu recommandées. Et aussi, si c'est sûr, on peut basculer le GPS en anglais, mais il faut vérifier qu'on peut bien comprendre les directions. Mais c'est les petites choses comme ça pour mettre les choses anglaises dans la vie quotidienne.
Sur les réseaux sociaux, dans les astuces qui circulent le plus, c'est de mettre la langue de son téléphone en anglais, puisque le téléphone, on s'en sert tous les jours.
Oui, exactement. Mais ça prend du temps avec le logiciel qui tout le temps change. Alors, j'ai tout ma vie en français maintenant, mais ça reste les moments où il faut vraiment penser « ça c'est vrai ou ça c'est pas vrai ». Alors, c'est bien, c'est être utile, mais être sage aussi.
Voilà. Et faire attention au GPS pour ne pas se tromper de route.
Exactement.
Daniel, toi, comment tu as appris l'anglais?
Grâce à l'éducation nationale, merci, mais aussi, surtout...
On les salue.
On les salue. Merci à eux. Beaucoup à travers Internet. J'ai été sur les réseaux sociaux assez tôt, et en fait, à l'époque, il y avait une très grosse communauté anglaise dessus, donc... les premiers échanges, etc., c'était quasiment que de l'anglais. Et puis après, bon, petit côté geek aussi, c'est quand même aussi beaucoup à travers les jeux vidéo. Énormément, à travers les jeux, beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai quand même pris un bon niveau d'anglais. J'avais déjà un bon niveau en arrivant, mais là, depuis que je suis au campus, comment on fait un anglais qui est vraiment orienté professionnel, etc., j'ai bien progressé.
Est-ce que tu veux un peu peut-être expliquer, pour les gens qui veulent suivre votre voie, les cours qu'il y a en anglais, comment on apprend
Là, nous, dans notre cas, c'était, par exemple, on va... en fait, c'est des thèmes qui sont abordés. Donc là, par exemple, on a eu le thème de la finance. Donc en fait, on apprend des termes concrets sur l'univers bancaire. Après, c'était sur le thème de la vie au bureau. Donc on va apprendre beaucoup de vocabulaire sur le mobilier... bureau, les échanges, les réunions, voilà, ça va être, donc c'est sur des choses assez concrètes de la vie pro.
Même question, Jenning, c'est quoi ton rapport avec l'anglais? Comment tu l'as appris, etc. Si...
Moi j'ai appris l'anglais vraiment les bases en fait à l'école, l'éducation nationale, et ensuite je pense que pour vraiment travailler une langue, il faut vraiment s'investir et s'y intéresser. Et moi c'était à travers la musique en fait. À une époque, au début des années 2000, il n'y avait pas trop, il y avait internet, mais il n'y avait pas trop de... il n'y avait pas de traducteur, toutes les chansons n'étaient pas traduites, et puis moi j'étais intéressé par les traduire, alors j'essayais d'écrire un peu les paroles, et j'allais voir mon professeur demander, etc. C'est là que je me retrouvais avec des Wana, Kuder, etc. Mon prof me prenait, attention, ça va pervertir ton anglais. Donc j'ai fait ça, et ensuite j'ai eu une période aussi beaucoup podcast, c'est-à-dire que j'écoutais beaucoup les podcasts, notamment sur la Formule 1, comme j'aime beaucoup la Formule 1, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé.
Podcast américain ?
Podcast américain, podcast anglais, j'étais vraiment dans tout. Et surtout, choisir bien aussi des sujets qui vous intéressent. Moi, c'était la Formule 1, mais il y avait aussi les jeux vidéo. Et ça permet d'acquérir un vrai vocabulaire.
Il paraît qu'il y a des séries qui sont plus faciles à regarder en anglais, notamment quand on les connaît. Les sitcoms, notamment Friends, How I Met, il paraît que c'est plus simple de les regarder. Émilie, est-ce qu'il y a encore un blocage psychologique un peu français avec l'anglais, cette peur un peu de mal parler, de faire des fautes?
Oui, ce blocage, il existe depuis très longtemps, et la grande peur des Français, justement, c'est de ne pas être capable de communiquer et d'avoir un accent. Alors ça, c'est un problème, ce qui est un faux problème, parce que dans le monde entier, tout le monde parle anglais avec l'accent de sa langue maternelle, Et nous, en France, on aimerait, et donc c'est un vœu pieux, on aimerait parler l'anglais parfaitement, en sachant que ça, c'est très peu faisable, sauf si on est né bilingue et qu'on va vivre dans le pays. Là, on peut espérer avoir un accent parfait. Et donc ça, c'est un gros complexe des Français. Et donc, une fois qu'on a dépassé ce problème et qu'on a compris que l'accent, c'était un faux problème, on se lâche et on communique, même si c'est avec un fort accent français. L'important, c'est de communiquer, de se faire comprendre.
Donc en fait, on communique, on apprend l'anglais avec la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, mais beaucoup moins l'accent qui, lui, j'imagine, vient naturellement, ou alors...
L'accent vient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas déformer les mots, mais par contre, donc il n'y a pas de sanction ou de pénalité si on s'exprime avec un accent français. Hein, moi, je forme des adultes en entreprise et je vois beaucoup de personnes qui sont traumatisées, qui ont des mauvais souvenirs scolaires, qui me disent, moi, j'ai un mauvais accent à l'école, j'étais punie, je parlais pas bien. Donc ça, il faut dépasser ce complexe de l'accent. Ça, c'est un gros problème en France. Dans les autres pays étrangers, tout le monde parle anglais avec son accent italien, et I'm sorry, mais tout le monde comprend. Hein, et donc l'accent, c'est un faux problème que les Français se créent. Donc il faut dépasser ce problème de l'accent.
Et on aime en France sans créer des problèmes. Gary, vous qui venez du Royaume-Uni, comment vous regardez le rapport des Français et notamment des étudiants à l'anglais?
Tout le monde s'en est intéressé. Évidemment, il faut. Mais c'est vraiment, je trouve, avec cette dynamique internationale, qu'il y a un vrai engagement avec la langue anglaise. Quand j'ai fait des choses au sujet de culture anglaise, spécialement Noël et les choses avec les vacances publiques et les choses qui sont défendues, il y a un vrai intérêt. Et j'ai quelques étudiants qui ont voyagé vers le Royaume-Uni pendant leurs études. Et ils ont vraiment dit qu'entre les études, entre les études de cas, entre les visites, ça donne vraiment quelque chose de plus grand dans les études en anglais. C'est une manière de vie, pas seulement une compétence de développer. Et vraiment, ça, c'est pour moi, ça, c'est une joie de voir quelqu'un qui peut croiser les frontières pour faire les choses plus larges, mondiales.
Jenning, vous avez un parcours de reconversion et une vraie appétence pour les langues, si je ne m'abuse. Est-ce que ça t'a donné envie d'en apprendre plus des langues? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire, en fait?
Oui. Alors moi, depuis petit, en fait, je suis d'origine haïtienne de mes parents. Donc depuis tout petit, en fait, mes parents parlaient déjà le créole à la maison. Et je pense que ça m'a donné des facilités aussi pour apprendre de nouvelles langues. J'ai l'impression que, en fait, plus on en apprend, plus c'est facile. Aujourd'hui, je parle aussi l'anglais, j'ai des notions en espagnol et j'apprends l'italien, mais c'est aussi parce que j'ai cette base en anglais, j'ai cette base aussi en créole, j'ai eu cette appétence, cette envie, c'est mes parents qui m'ont transmis en réalité.
Ma prochaine question, justement, elle est pour tous les quatre. Je pense que les jeunes aujourd'hui, pour apprendre une langue, et particulièrement l'anglais, ils utilisent des applications type Duolingo, mais il y en a d'autres, hein, Rosetta Stone, me semble-t-il, également. Est-ce que ces applis type Duolingo qui proposent des abonnements, ce genre de choses, est une bonne façon d'apprendre? Je ne sais pas s'il y en a un qui veut répondre en particulier.
Alors moi, j'ai testé, j'avais testé Duolingo, etc. Bon, j'avais déjà des notions, mais ce que je trouve fabuleux avec ces applications, et je pense qu'elles sont... elles deviennent de mieux en mieux, c'est le fait qu'en fait, on réponde à son téléphone et qui nous aide à mieux prononcer. Moi, quand j'ai commencé l'anglais, il n'y avait pas tout ça, hein, de toute façon. Il n'y avait pas forcément de professeur virtuel derrière qui vous apprenait à prononcer, qui vérifiait votre intonation, etc. Je pense que c'est un gros apport, ça.
Daniel, je sais pas si tu sais, mais les profs de français détestent les anglicismes. On dit pas spoiler, on dit divulgâcher, notamment oui. Des mots que tout le monde utilise au quotidien.
C'est le gouvernement. On dit courriel aussi, on dit pas spam. Non, mais...
voilà, ouais, adresse mail électronique, je sais plus. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que dans ton domaine à toi, la technique s'apprend en fait en anglais?
Alors, je suis désolé, la réponse va te décevoir, mais moi j'ai jamais été, trop été impacté par ça en fait. Pour le coup, après, c'est aussi, ouais, c'est pareil, moi j'ai une appétence pour l'anglais, donc en fait les anglicismes m'ont jamais dérangé, tu vois. Je sais qu'il y a certaines personnes pour qui ça pose problème, moi c'est pas le cas. Et pour le côté, par contre, à l'inverse, le truc pourriel, etc., aucun impact pour moi, personnellement, c'est vraiment une lubie française.
Mais justement, je me demandais si tu le voyais dans ton quotidien, ou est-ce que c'est vraiment chez nous, quoi, en France, qu'on traduit tout
Je pense que c'est vraiment chez nous. c'est pour rejoindre ce que disait Émilie, c'est des problèmes qu'on se crée parce que ouais. On aime bien se plaindre, il faut se plaindre. On trouve des nouveaux motifs, tu vois, je pense. Sans trop dénigrer quand même, mais bon, voilà.
Il y a un côté aussi un peu protectionniste de la langue française.
Ouais, peut-être aussi.
Qui est très, très français. Hein. C'est mettre des lois pour protéger la langue, etc., qu'on ne parle pas trop d'autres langues. Bon, c'est
un autre débat, mais ça aurait été tout aussi passionnant. Bah justement, Jennings, toi qui es en marketing digital, est-ce que l'anglais permet aussi d'aller chercher des idées plus vite que les autres? Alors j'ai fait des petites recherches sur Internet et on sait que 49,5% du web est en anglais selon le site Web Technologies qui calcule en temps réel les sites Internet et leur langue.
Alors est-ce que l'anglais permet de trouver des idées plus vite? Effectivement, quand on fait des recherches, en tout cas sur Internet, si vous les tapez en anglais, vous allez trouver des réponses tout de suite beaucoup plus rapides. Vous allez trouver des forums pour vous aider, vous allez trouver plein de choses. En français, un peu moins, mais il y a quand même du contenu. Donc oui, l'anglais, je pense, peut aider à faire germer des idées beaucoup plus rapides.
Émilie, il y a aussi le centre d'études des langues au campus qui forme des professionnels du territoire avec des formats adaptés. Est-ce que ça montre aussi que l'anglais ne concerne pas seulement les étudiants, mais toute la vie professionnelle de façon générale ?
Oui, hein, donc l'anglais, on commence à l'apprendre dans le contexte scolaire, ensuite quand on fait des études supérieures, mais l'anglais, on en a besoin toute sa vie. Hein, à l'heure actuelle, dans une carrière professionnelle, on est tous amenés à avoir besoin d'utiliser l'anglais à un moment donné. Donc il est toujours intéressant de se former. Et ça peut se faire, j'allais dire, de 7 à 77 ans. Moi, c'est la phrase type, mais c'est un peu vrai. On peut se former à la langue anglaise à tout moment, selon les besoins des métiers, des carrières. Donc, nous, au Centre d'études des langues, c'est notre cœur de métier de former les adultes, d'essayer de les aider à évoluer dans leur métier. Hein, parce que maîtriser la langue anglaise, c'est une grande compétence qui apporte la possibilité d'évoluer au niveau professionnel et au niveau, j'allais dire, même salaire. Hein, quand on veut être promu dans une société, hein, quand on travaille sur une machine en production, si on veut évoluer et passer au service achat, là on est en contact avec les fournisseurs, donc il faut utiliser la langue anglaise. Donc maîtriser la langue anglaise et se former à la langue anglaise, c'est un grand levier pour une vie professionnelle et personnelle.
Apprenez l'anglais et vous allez devenir riche. Tout à l'heure, je vous ai demandé des conseils pour mieux apprendre. Est-ce que, à l'inverse, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, des petits trucs, je sais pas.
Alors moi, le conseil que je donne à mes étudiants, on parlait des séries et des sous-titrages. Donc effectivement, regardez les séries, ne surtout pas mettre des sous-titres en français. Donc il y a plein d'explications, il y a des raisons à cela. C'est que en langue anglaise, on ne s'exprime pas de la même manière qu'en français. On s'exprime de manière plus simple et plus courte. Donc les sous-titrages qui sont faits en langue française ne correspondent jamais à ce qui a été dit en anglais à la base, pour des questions de synchronisation et d'écran. Donc ce que l'on lit en français ne correspond pas à ce qui a été dit en anglais. Donc là, on apprend zéro anglais en lisant des sous-titrages français. Et puis, pour mémoriser une langue et faire des progrès, il faut associer le son, le visuel, donc lire les mots. Et donc, les sous-titrages anglais avec le son anglais, ça, c'est la meilleure méthode pour faire des progrès en anglais. Et donc là, le cerveau mémorise en synchrone. Hein, donc, il a le son. Il lit les mots anglais, enregistre l'orthographe. Donc, surtout pas de sous-titrage en français, ça sert à rien. Et de toute façon, le cerveau ne peut pas travailler avec deux langues en même temps. Donc, quand on met le sous-titrage français, on a l'impression de travailler son anglais, c'est faux. Hein, le cerveau décroche, il entend l'anglais pendant 5 minutes, puis ensuite se met à lire en français. Et donc là, il vaut mieux lire le livre qui correspond à la série en français plutôt que... Donc ça ne sert à rien. Donc ça, j'insiste beaucoup auprès de mes étudiants. Série en anglais, sous-titrage en anglais, et ça, c'est la méthode royale et très agréable de faire des progrès rapides en anglais.
Et si on repère un mot qu'on ne connaît pas, est-ce que ça vaut le coup de peut-être mettre sur pause et aller chercher
Voilà, exactement, parce qu'en fait, pour comprendre la langue anglaise, il faut uniquement apprendre 25% de la langue, puisque 75% c'est des termes latins, donc les mêmes que nous en langue française. Donc les mots nouveaux représentent que 25% de la langue. Donc là, ceux-là, effectivement, ça vaut la peine de les chercher, de faire mettre sur pause. Si on entend le même mot 10 fois dans l'épisode de 45 minutes, on se dit, tiens, ce mot-là, je vais essayer de le mettre. Mémoriser, de voir à quoi ça correspond. Ce qui fait qu'on n'est pas noyé dans une masse d'informations à apprendre, hein, mais à chaque épisode, on apprend 2, 3, 4, 5 mots nouveaux. Et ça, c'est tout à fait raisonnable pour un cerveau. Hein. Le cerveau n'est pas en capacité d'engranger 10 000 mots à la fois, 3, 4, 5, un épisode, un deuxième, un troisième. Et à la fin de la série, on a énormément enrichi son vocabulaire en langue anglaise.
Eh ben, merci à tous les quatre d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose à rajouter, peut-être faire un peu de promo pour vos projets, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou quoi? Je vous laisse le micro.
Shall we say something in English as it is the subject? thank you, Maxime, for being with us.
Eh ben, thank you to all of you for answering my question. Là, je me la pète, mais je l'avais écrit en avance en réalité, donc je n'ai aucune raison de pavaner. Merci à tous les quatre donc d'avoir répondu à mes questions. Ce qu'on retient ce soir, c'est que l'anglais n'est pas seulement une matière ou une ligne sur un CV, c'est un outil de travail, un levier pour l'emploi et parfois même une porte d'entrée vers l'international d'un point de vue professionnel et personnel, pour reprendre des bons mots entendus dans cette émission. Les coulisses de la formation, c'est terminé sur Bac FM 106.1. Tout de suite, le retour de la playlist Rock et Metal. Bonne soirée sur Bac FM.